VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 26 mai 2017 en direct de Washington. Idrissa Sidoulia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
En Côte d'Ivoire, un proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, entendu aujourd'hui sur une supposée affaire de cache d'armes.
Nouvelle tragédie en mer, au moins 7 migrants morts en Méditerranée et 77 autres secourus hier après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye.
Le terrorisme au centre des préoccupations des dirigeants du G7, aujourd'hui et demain à Taormina, en Sicile.
La veille, au sommet de l'OTAN à Bruxelles, le président Donald Trump avait aussi demandé un plus grand accent sur le terrorisme après l'attaque de Manchester.
Le CICR s'inquiète du sort de centaines de prisonniers palestiniens en grève de la faim depuis 40 jours en Israël.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est convoqué ce vendredi à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Abidjan Plateau pour être entendu. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La convocation de Souleymane Camara Tekoné d'Issoul-Toussoul, bras droit du président de l'Assemblée, fait suite à l'affaire des caisses d'armes qu'on aurait trouvées au domicile de la mère de M. Koné lors du mouvement d'humeur des mutins début mai à Boaké. Tout est donc parti de cette supposée cache d'armes découverte au domicile de Issoul-Toussoul lors de la récente mutinerie des soldats ivoiriens. L'affaire fait grand bruit à Abidjan en raison des affinités de l'intéressé avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ancien chef de l'ex-rébellion, dont les éléments constituent le statut des soldats ayant participé aux récentes mutineries en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro avait en réaction vigoureusement recommandé à son collaborateur, M. Koné Kamaraté, de se mettre à la disposition des enquêteurs et lui avait demandé de dire sur l'honneur et sur sa conscience ce qu'il sait pour contribuer à aider la justice à conduire ce dossier.
Au Nigeria, le manque de financement a contraint les agences humanitaires à interrompre certains programmes dans le nord-est, région dévastée par l'insurrection de Boko Haram, c'est ce qu'ont annoncé hier les Nations Unies. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, 5,2 millions de personnes auront besoin d'assistance alimentaire dans les trois États du nord-est du Nigeria jusqu'au mois d'août.
Au Kenya, 5 policiers ont été tués hier quand leur véhicule a heurté un engin explosif au bord d'une route de l'est du pays, et ce au lendemain de 2 autres attentats similaires qui ont tué 8 policiers dans la même région, selon un responsable des forces de sécurité. Ces 3 attaques ont été revendiquées par les islamistes somaliens Shebab, affiliés à Al-Qaïda, a rapporté le Site Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes.
La Zambie a empêché hier le principal responsable de l'opposition sud-africaine d'entrer dans le pays parce qu'il soutient un dirigeant zambien emprisonné. C'est ce qu'a annoncé le parti sud-africain d'opposition Alliance démocratique. Moussi Maïman devrait se rendre à Lusaka pour participer au procès du principal dirigeant de l'opposition zambienne à Kainde Hichilema, et selon son parti, la police zambienne est montée à bord de l'avion où il se trouvait pour l'empêcher de pénétrer dans le pays.
En Algérie, le premier ministre évincé, Abdelmalek Sélal, serait en réserve de la République et bien placé pour succéder au président Abdelaziz Bouteflika, selon les analystes. Le nouveau premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, qui a pris officiellement ses fonctions hier, est lui aussi considéré comme un proche de M. Bouteflika. Le président algérien, 80 ans, a été victime en 2013 d'un AVC qui affecte sa mobilité et son élocution, mais selon ses proches, il n'a pas écarté l'éventualité d'une candidature à la prochaine présidentielle en 2019.
Drame migratoire en Méditerranée, au moins 7 migrants ont été tués ou sont morts et 77 autres ont été secourus hier après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Ekia Badou fait le point.
Selon Ayoub Kassem, porte-parole des gardes-côtes libyens, les survivants, dont 4 femmes et un enfant, sont restés 2 jours agrippés à un canot pneumatique. Selon lui, le bilan des victimes pourrait s'alourdir car le nombre de migrants qui se trouvaient à bord de l'embarcation n'était pas connu. Depuis mardi, plus de 5900 migrants ont été secourus. La marine italienne a fait état de son côté de 2300 migrants secourus hier au large de la Libye. Mercredi, 35 corps sans vie, dont ceux d'une dizaine d'enfants, avaient été récupérés après que des centaines de personnes soient tombées à l'eau. En Sicile, Médecins sans frontières a appelé les dirigeants qui participent au sommet G7 à Taormina de prendre des engagements courageux pour réaliser des politiques migratoires humaines et à long terme. Depuis le début de l'année, l'Italie a vu débarquer plus de 50 000 migrants sur ses côtes. Selon les Nations Unies, plus de 1400 personnes sont mortes ou disparues en mer.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Taormina, en Sicile, les dirigeants du G7 vont tenter d'afficher aujourd'hui et demain un front uni contre le terrorisme après le récent attentat de Manchester. On ne s'attend pas autrement à grand-chose sur le changement climatique ou le commerce international. La première ministre britannique Theresa May, qui rentrera dès vendredi soir à Londres, compte à cette occasion plaider pour que les grandes multinationales de l'Internet en fassent davantage pour éliminer les thèses les plus radicales de leur contenu.
Hier à Bruxelles, au nouveau siège de l'OTAN, le président Donald Trump a interpellé publiquement les autres leaders de l'Alliance et leur a reproché de ne pas assumer équitablement leur part du fardeau financier et il les a exhortés à mettre un plus grand accent sur la lutte contre le terrorisme. L'OTAN du futur doit se concentrer sur le terrorisme et l'immigration ainsi que sur les menaces de la Russie et les frontières à l'est et au sud de l'OTAN, a déclaré M. Trump. Il a dénoncé de nouveau l'attaque terroriste de Manchester en Grande-Bretagne, mais aucun mot sur un soutien clair et explicite à l'article 5 de la charte de l'OTAN qui prévoit que les alliés volent au secours d'un des leurs en cas d'agression extérieure.
Par ailleurs, le président Trump s'est dit profondément troublé par les fuites dans la presse américaine d'informations cruciales dans l'enquête sur l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts lundi soir et il a promis une enquête du département de la justice pour débusquer les responsables. La première ministre britannique Theresa May, présente aussi à Bruxelles, estime que les renseignements qui sont partagés entre nos services respectifs doivent rester confidentiels. Fin de citation.
Ici, pardon.
Ici aux États-Unis, la justice a confirmé hier en appel la suspension du décret migratoire révisé du président Donald Trump et le ministre de la Justice, Jeff Sessions, a annoncé que le gouvernement portera l'affaire devant la Cour suprême. Il s'agit en tout cas d'un nouveau camouflet pour cette mesure controversée. Rosine Munezero.
Le Congrès a accordé au président le pouvoir d'interdire l'entrée des étrangers aux États-Unis, mais ce pouvoir n'est pas absolu selon le juge Roger Gregory, président de la Cour d'appel de Richmond, capitale de la Virginie. Dès que le verdict est tombé, Omar Jadwat, avocat opposé au décret présidentiel, a écrit sur Twitter « Nous avons gagné ». La Constitution des États-Unis interdit la discrimination religieuse. Les opposants au décret avaient plaidé le 8 mai devant la Cour d'appel fédérale de Richmond que M. Trump avait volontairement visé les musulmans dans son décret, violant ainsi la Constitution. Le fameux décret ainsi que sa deuxième mouture avaient été bloqués en février et mars par les tribunaux. Deux suspensions dénoncées par Donald Trump comme symptomatiques d'une justice politisée. Maintenant, il ne reste à son administration que le recours à la Cour suprême.
Jared Kushner, gendre et principal conseiller du président Donald Trump, fait partie des gens concernés par l'enquête du FBI sur une éventuelle collusion entre la Russie et la campagne électorale de M. Trump en 2016. C'est ce qu'ont révélé hier la chaîne NBC et le Washington Post. L'accent sur Kushner ne signifie pas nécessairement qu'il est soupçonné d'un crime, qu'il est une cible des enquêteurs. Ces derniers examinent les réunions que M. Kushner a eues avec l'ambassadeur russe à Washington, Sergei Kislyak, et le responsable d'une banque russe pendant la transition, selon le journal Washington Post. Des centaines de prisonniers palestiniens sont entrés dans leur 40e jour de grève de la faim en Israël. Leur sort inquiète le Comité international de la Croix-Rouge, qui estime qu'ils entrent dans une phase critique. Morgan Guiriec nous en dit plus.
Les médecins du CICR ont rendu visite à tous les détenus en grève de la faim. Nous sommes préoccupés par les éventuelles conséquences irréversibles sur leur santé, indique la Croix-Rouge. cette grève de la faim collective avec le très populaire dirigeant du Fatah, Marwan Barghouti, vise à réclamer des visites médicales régulières et l'accès au téléphone, entre autres. Monsieur Barghouti purge 5 peines de prison à perpétuité pour des attentats pendant la deuxième intifada. Les grévistes de la faim sont issus de toutes les mouvances politiques palestiniennes, du Fatah du président Mahmoud Abbas, au parti de la gauche, en passant par le Hamas islamiste. Le CICR est l'unique organisation internationale admise auprès des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Accord entre la Banque africaine de développement et la Société financière internationale pour promouvoir des investissements en faveur des femmes en Afrique. Selon la BAD, l'écart de financement pour les femmes d'affaires africaines s'élève à 42 milliards de dollars. Le secteur agricole à lui seul a besoin de 15,6 milliards de dollars. Abuja et Washington ensemble pour combattre les fraudes financières qui minent l'économie du Nigeria. Les deux capitales vont aussi mener une guerre sans merci au blanchiment, la cybercriminalité, les trafics de stupéfiants et le braconnage. L'an passé, sur une perte accumulée de 895 millions de dollars dans 5 pays africains, le Nigeria totalise environ 550 millions de dollars de pertes. Le Mozambique, encore une fois en défaut de paiement ce mercredi, Maputo n'a pas payé une tranche de 133 millions de dollars pour remboursement des emprunts d'une valeur estimée à 1,12 milliard de dollars. En octobre dernier, le gouvernement n'avait pas honoré ses engagements. Il devait payer 60 millions de dollars d'intérêt sur un emprunt de près de 727 millions de dollars reçu en début 2016.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Rissa, bonjour à tous.
Coupe du monde de football des moins de 20 ans en Corée du Sud.
Après des débuts en fanfare contre l'Arabie Saoudite, le Sénégal a chuté contre les États-Unis. C'est Josh Sargent qui a inscrit le but de la victoire hier après la demi-heure de jeu. Les États-Unis s'emparent de la tête du groupe F avec 4 points. Les Sénégalais auront l'occasion de se ressaisir contre l'Équateur dimanche, tandis que les États-Unis tâcheront de confirmer contre les Saoudiens. À suivre ce vendredi, la Guinée qui doit impérativement l'emporter face à l'Angleterre pour conserver un maigre espoir de qualification.
Et un résultat en amical sur le continent hier.
Oui, entre le Bénin et le Ghana, c'était à Accra. Préparatif pour le CHAN 2018, le Ghana et le Bénin ont fait match nul, un but partout au stade d'Accra.
Grand remue-ménage dans la sélection ghanéenne.
Le sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a convoqué 30 joueurs pour les rencontres du mois de juin. Pour sa première liste depuis son retour sur le banc des Black Stars, le technicien ghanéen a écarté pas moins de 10 joueurs retenus pour la CAN 2017. Seront notamment absents Badou, Daouda, Brima, Guima, Yadom ou encore Tété. Ils ne figurent pas dans la liste des 30 joueurs retenus pour les rencontres du mois prochain, le 11 juin face à l'Éthiopie en éliminatoire de la CAN 2019, puis en amical face au Mexique et aux États-Unis.
Luis Suarez, incertain avec l'Uruguay.
L'attaquant uruguayen blessé à l'entraînement hier avec son club du FC Barcelone devrait manquer les rendez-vous amicaux de l'Uruguay contre l'Irlande et l'Italie début juin. L'attaquant déjà privé de la finale de la Coupe du Roi samedi face à Alavés à cause d'une suspension sera éloigné des terrains pendant 15 jours.
Le Portugal en route pour la Coupe de la Confédération.
Oui, le Portugal emmènera pratiquement tous ses champions d'Europe 2016 à la Coupe des Confédérations qui commence le 17 juin en Russie. Le buteur lillois Eder, auteur du but victorieux, vous vous en souvenez, face à la France en finale de l'Euro 2016. Il a été écarté, payant sa saison en demi-teinte du côté du LOSC. L'attaquant du FC Porto, André Silva, lui a été préféré. Allez, on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain. Alors Idrissa, dans la finale de la conférence Est, Cleveland a-t-il pris le dessus sur Boston?
Qui en avait le moindre doute, Nicolas? Le champion en titre, Cleveland, a décroché jeudi son billet pour sa troisième finale NBA consécutive contre Golden State grâce à sa superstar LeBron James qui a écrit une nouvelle page de sa légende avec une septième finale de suite. Les Cavaliers n'ont laissé aucune chance aux Celtics, humiliés dans leur salle, 135 à 102. Après la première période, ce match numéro 5 de la finale de conférence Est était déjà décidé avec 20 points d'avance, 43-23, en faveur de Cleveland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, pas de répit dans les attaques terroristes dans le nord et le centre du pays. Deux casques bleus ont perdu la vie à Aguelhok et une école a été saccagée dans la région de Mopti. Le Burkina voisin est aussi ciblé par les djihadistes. Joint par Abdourahmane Dia à Bamako, notre confrère Alexis Calambri, directeur de publication du quotidien malien Les Échos.
Non, je pense que c'est un peu une riposte au nouveau président français qui s'est rendu récemment à Gao. Il semble donner une nouvelle impulsion et une nouvelle orientation à la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Si vous avez suivi son discours, il a mis l'accent d'abord sur plus de moyens pour les troupes présentes, mais également un volet diplomatique et économique permettant plus d'engagement de la France et de la communauté internationale. Je pense que tout cela mis bout à bout a dû créer une panique chez les autres qui semblent donner de la voix et se faire entendre plus.
Ces attaques également, on les voit dans des pays voisins comme le Burkina Faso. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un quelconque lien entre ce qui se passe par exemple au Burkina et ce qui se passe dans le centre du Mali?
Oui, forcément. Parce que d'abord, il faut déplorer le fait que tout est parti du Mali. Ensuite, que c'est le Mali qui est un peu le ventre mou de tout ça. Parce que si vous voyez, c'est presque tout le temps des attaques et des replis sur le Mali. Dans tous les cas, c'est pour eux jusqu'au Tchad. Vous voyez, ils ont vraiment un espace assez large qui leur permet d'aller de tous les côtés.
Le G5 Sahel, qui est cette organisation régionale, prévoit de mettre en place une force commune. Vous pensez que c'est peut-être cela la solution?
La solution peut être au niveau du G5 Sahel, mais malheureusement, jusqu'ici, c'était mal emmanché. En ce sens que, bon, le G5 Sahel, c'est des pays qui ne se font pas trop confiance, qui n'ont pas le partage de l'information, qui ont des récriminations les uns contre les autres. C'était vraiment mal emmanché. Je pense que, comme Macron l'a promis, Macron sera présent au Mali pour le moment. La date retenue est le 9 juin pour la prochaine rencontre du G5 Sahel. On espère que cela va donner une nouvelle impulsion et une nouvelle orientation à ce niveau-là. Sinon, la solution réside au niveau du G5 Sahel parce que ça va permettre une mutualisation des moyens, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
Alexis Calambri, directeur de publication du quotidien malien Les Échos.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a nommé une équipe chargée de réviser la constitution. Certains articles ou verrous, comme la limitation des mandats présidentiels, risquent de sauter. L'opposition burundaise affirme pour sa part que le parti CNDD-FDD veut la suppression des accords de paix d'Arusha conclus en 2000 en Tanzanie. Le point avec Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Pascal Nguendakuriyo est à la tête d'une commission de 15 personnes qui viennent d'horizons politiques divers, de différentes religions et ethnies. Il a la lourde mission de pouvoir présenter au mois de septembre ou avant la fin de cette année au président burundais un rapport qui précise bien les articles à modifier dans la constitution actuelle, y compris l'article concernant les mandats présidentiels. Pour le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir, cette idée de revisiter la constitution n'est pas nouvelle. Une commission technique a été mise sur pied dernièrement par le numéro 1 burundais, il est déjà à pied d'œuvre. Évariste Ndayishimiye.
Il y a des procédures pour amender la constitution. Il y a eu des idées qui sont venues de beaucoup de citoyens burundais qui demandent qu'il y ait amendement de la constitution. C'est là même où on a commencé à parler de questions de mandat. Il y a une commission technique qui va étudier techniquement comment mettre en œuvre ces recommandations. Mais dans l'affaire de Route de Kayanza, les partis politiques avaient prévu la révision de la constitution parce qu'il y a toujours des lacunes. Ce sont les membres de la commission technique qui étudient la gestion des institutions qui étaient en place.
Pour le parti de l'indépendance, il prône Union pour le progrès national. La révision de la constitution burundaise ne peut pas intervenir au moment où les parties prenantes sont aujourd'hui en pourparlers. Tassien Sibomana.
Un parlement futur légal et légitime ne peut pas se targuer d'avoir la compétence de réviser la constitution. Et cet accord est pour nous un pacte social entre Burundais qu'il ne faut pas changer sur l'initiative de tout venant. La deuxième raison, c'est que l'article 299 est clair. Aucune procédure de révision n'est envisageable quand elle peut porter atteinte à la cohésion nationale, au principe de la démocratie.
Président du parti Parena, parti pour le redressement national de l'ancien président Jean-Baptiste Bagaza, estime que le parti présidentiel CNDD-FDD veut enterrer une fois pour toutes tous les accords de paix et de réconciliation d'Arusha. Zénon Nichanenzi.
Le Parena n'a jamais contesté le principe même de la révision de la constitution. Seulement, comme il y a un dialogue à Arusha, il faut que cette constitution soit changée dans l'esprit et les conclusions des accords d'Arusha. Si on met une commission avant les conclusions d'Arusha, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
À présent, un sujet qui agace les populations de la capitale camerounaise ces derniers temps, la collecte des ordures ménagères à Yaoundé qui, par endroits, ressemble à une ville poubelle. La société en charge de l'hygiène et de la salubrité en rejette la responsabilité sur, entre autres, l'incivisme des populations. C'est une citation. Reportage de notre correspondant Emmanuel Jules Tapp.
À Yaoundé, les ordures ménagères côtoient déjà un peu trop les habitants de la capitale politique du Cameroun. Même les quartiers dits résidentiels n'échappent pas au décor des rues jonchées d'ordures ménagères des jours durant. Comme au lieu dit Tropicana, nous avons surpris le jeune Roger en train de déverser les ordures à même le sol, faute de bac à ordures.
Quitter chaque jour à la maison, peut-être venir à une décharge comme ça, et ça accumule encore plus. Nous ne sommes pas censés faire ça, parce que comme on voit dans les pays extérieurs, par exemple en Europe, les services d'hygiène là-bas, c'est chaque matin, très tôt et très tard dans la nuit. On n'a pas à se déplacer pour toujours les vider.
Et comme le Cameroun n'est pas l'Europe, c'est parfois une initiative personnelle de ramassage des ordures qui vient supplier la société en charge de l'hygiène et de salubrité à Yaoundé. Stéphane essaye tant bien que mal de le faire dans son quartier depuis le mois de février.
Et chaque fois, on a appelé le chef de bloc de Isakam, il me jongle. Et si je n'enlève pas comme vous me voyez avec l'appel là, c'est qu'il n'y a même pas le passage ici.
Au marché central de Yaoundé, où nous rencontrons un commerçant, l'évocation du ramassage des ordures ménagères le fait sortir de ses gonds.
Je suis un habitant de Mimoumandon, Moscou. Mais dans mon quartier, c'est grave. Les ordures ont traîné presque 3 semaines. On n'arrive même plus à marcher. C'était tellement grave. Il faut que vraiment le gouvernement nous aide avec Isaac, sinon les gens vont beaucoup tomber malades au quartier.
Accusé, la société Isakam se défend. 3 raisons sont évoquées pour expliquer l'image d'une capitale poubelle depuis quelque temps. Pascal Nga, de la cellule de communication.
S'il y a l'incivisme des populations, on met les bacs, les gens volent les coffres verts en plastique, ceux qui sont métalliques, on les vandalise, les gens font de la ferraille avec. Il y a les embouteillages et jusqu'à présent, on n'avait pas de centre de transfert. Seulement, le délégué du gouvernement nous a donné un centre de transfert au niveau du marché Mokolo et au niveau du Stade Mendon. Et c'est ça qui nous permet de décanter un peu la situation actuellement.
En coulisses, le renouvellement du contrat de la société Isakam se discute. D'ici fin juin, le gouvernement va se prononcer si oui ou non, cette société restera partenaire de l'État en matière d'hygiène et de salubrité au Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Le président Donald Trump a effectué hier sa première visite à Bruxelles, la capitale européenne. Il a appelé l'OTAN à se concentrer sur le terrorisme et les menaces de la Russie et il a renouvelé son appel au respect des engagements financiers de tous les États membres. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint l'expert en relations internationales, Henri-Désiré Nzunzi.
Il était attendu au tournant, bien évidemment, avec ce petit mélange, je dirais, de curiosité et d'attente hein, par rapport à la manière dont il se comporterait, à la manière dont il s'exprimerait. Globalement, je dirais que ça s'est plutôt bien passé pour lui. Il a fait preuve de pragmatisme dans ses propos, dans ses propositions. On verra maintenant pour la suite. Il y a aujourd'hui même en Italie l'ouverture du G7, donc ce sera aussi et encore une occasion pour lui de faire ses premiers pas, à l'instar d'ailleurs d'Emmanuel Macron sur la scène diplomatique internationale. Donnons-lui du temps et nous aurons évidemment toute latitude pour juger aux actes.
Le président américain a renouvelé son appel au respect des engagements financiers de tous les États membres de l'OTAN, mais contrairement à ce qui était attendu, n'a pas exprimé explicitement son attachement à l'article 5, la véritable socle de l'OTAN qui prévoit que les alliés volent au secours d'un des leurs en cas d'agression extérieure. Quelle lecture faites-vous de cela ?
Durant la campagne électorale qui a vu la victoire de Donald Trump, on a très bien senti que Trump se recentrerait prioritairement en interne, donc les États-Unis d'abord. Et c'est pour cette raison qu'il a tenu un discours quasiment de banquier vis-à-vis de ses homologues de l'OTAN, en leur expliquant la nécessité de mettre la main à la poche, puisqu'il y a des pays qui ont failli à leurs obligations de cotisation. Donc ce n'est pas du tout une surprise. Trump, en fait, est en train de distiller simplement son point de vue sur le fonctionnement d'une telle institution. Et en bonhomme d'affaires, son problème se résume essentiellement au nerf de la guerre, c'est-à-dire à l'argent que chacun doit impérativement dépenser pour justifier l'existence d'une institution qui ne survivra que si sa capacité d'action est renforcée. Et pour cette raison, je pense qu'il n'y a aucune surprise de sa part. Trump est un pragmatique. Maintenant, il aura tout le temps, bien évidemment, de se ressaisir, puisque le temps de la campagne électorale étant terminé, il est maintenant confronté à la réalité.
Par le passé, M. Trump s'est maintes fois demandé pourquoi cela ne serait-il pas une bonne chose de travailler conjointement avec Moscou sur certains défis mondiaux, comme la lutte contre le terrorisme. Alors, est-il raisonnable pour les Européens de continuer à diaboliser la Russie à ce point ?
Il y a toujours eu, vis-à-vis de la Russie, une méfiance parfois justifiée. On a encore en mémoire l'épisode de la Crimée hein, et le conflit latent vis-à-vis de l'Ukraine. Depuis l'implication de la Russie dans le conflit syrien et depuis que la Russie elle-même est confrontée au terrorisme, l'idée était évidemment de mutualiser les efforts dans cette lutte pour faire appel justement à tous les pays concernés pour essayer de faire en sorte que ce phénomène puisse reculer. Cela étant, la méfiance est restée de mise, mais il est vrai aussi que la Russie n'a rien fait pour rassurer les Européens. Ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait toujours eu ce double discours au fond de l'Union Européenne. Vous avez d'un côté les réalistes qui considèrent que la Russie est incontournable, et puis ceux qui continuent à voir la Russie comme un épouvantail.
Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales, joint à Bruxelles, en Belgique.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Linden dans l'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur.
les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.